Et à midi, on aime l'été. Bonjour à vous toutes et vous tous. Ben oui, un été qui va se prolonger d'une petite semaine en ce qui concerne ce magazine animé pour vous cette semaine par Clotilde Saint. Et merci à mes petits camarades qui m'ont remplacé. Voilà ce qui arrive quand on attrape un vilain virus. Eh ben, on essaie, mais à un moment donné, ça fonctionne plus. Alors merci beaucoup à Kevin Breton de m'avoir remplacé la semaine dernière. Alors aujourd'hui à l'émission, on va tomber dans les pommes au potager Montrouge, une halte gourmande et inversible, donc c'est parfait pour le temps des pommes. Je vais recevoir Martine Riopel, directrice générale de la Fondation L'Intermède, ainsi que Stéphane E. Roy, qui en est son porte-parole, Monsieur Roy, comédien. Il sera question de des 30 ans de cette maison de répit L'Intermède et d'une envolée de cerfs-volants qui marqueront cet anniversaire. Également à l'émission, Bruno Collard, directeur de la clinique Revivre, et qui nous parlera de ces ateliers qui seront offerts cet automne aux personnes qui souffrent notamment soit de dépression, soit d'anxiété, soit de bipolarité. Aussi à l'émission aujourd'hui, Madeleine Fauteux, orthopédagogue et conseillère pédagogique qui est orthopédagogue à l'Institut des troubles d'apprentissage et à qui nous pourrons poser la question, puisque c'est la rentrée. Que peut-on faire en ce début d'année quand on a un enfant qu'on soupçonne qu'il a des troubles d'apprentissage ou même s'ils sont confirmés? Et on commence avec quelques nouvelles et ce problème grave, autiste en prison, c'est un phénomène de plus en plus fréquent, écrit Yann Bussière, et c'est suite à ce qui nous a été raconté, ce jeune José, autiste Asperger de 32 ans, atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, qui est pris entre les portes tournantes de la prison et du palais de justice pour de petits vols, des petits larcins. C'est une histoire triste à mourir, déclare Madame Harrison, qui reconnaît là une situation qu'elle rencontre de plus en plus souvent dans son travail. De ce que je sais, il y a beaucoup d'Asperger en prison. C'est malheureux, mais pour les autistes adultes, il n'y a souvent que ce que j'appelle les 4 P. Les parents, la psychiatrie, la prison ou le paradis, illustre-t-elle pour caractériser la situation de ces personnes qui disposent de peu de ressources pour les aider. Depuis près de 15 ans, SACAD est le seul organisme à offrir des services aux autistes afin de les aider à se développer. On déclenche leur sens social et on le développe. Si on ne le fait pas, la roue va tourner jusqu'au jour où ça va s'aggraver et que les conséquences seront plus graves, signale Madame Harrison. L'organisme a aussi commencé à offrir de la formation aux intervenants des secteurs judiciaires, médical et policiers, à leur demande, pour les aider à comprendre les personnes autistes. Brigitte Harrison déplore ce syndrome des portes tournantes, alors qu'on envoie tour à tour les autistes en psychiatrie ou en prison. Ils ne devraient pas être en psychiatrie, car ce n'est pas un problème de santé mentale. Pour Benoît Côté, directeur général de l'organisme Programme d'encadrement clinique et hébergement, le PECH, la prison est malheureusement devenue un lieu de prise en charge pour les gens ayant des problèmes multiples. J'ai une intervenante dont le bureau est à l'établissement de détention et en 2 ans, elle a vu le nombre de personnes qui s'adressent à elle doubler pour atteindre 350 personnes par année. C'est un signe inquiétant, a-t-il déclaré au Soleil. Plan d'action à l'égard des personnes handicapées. L'Office des personnes handicapées du Québec est fier de vous présenter le bilan de son plan d'action 2016-2017 à l'égard des personnes handicapées. De même que son plan d'action 2017-2018, dans ce document, l'Office présente le bilan des actions qu'il a posées en 2016-2017 ainsi que celles qu'il compte réaliser en 2017-2018 dans le but de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes handicapées dans son secteur d'activité. Le bilan du plan d'action 2016-2017 permet de constater que toutes les mesures prévues ont été amorcées ou complétées. En effet, 71% de ces mesures, soit 20 sur 28, ont été réalisées, tandis que 29%, soit 8 sur 28, sont toujours en cours de réalisation. Le plan d'action 2017-2018 comporte quant à lui pas moins de 27 mesures visant à répondre à 16 objectifs différents. Tout au long de l'année, l'Office emploiera ses efforts à mettre en œuvre ces mesures en vue de bâtir une société plus inclusive. Le plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées est un outil de planification exigé par l'article 65.1 de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration sociale et scolaire et professionnelle, nous dit encore l'OPHQ, bien sûr, dans ce papier que je viens de vous lire. Et puis ici, Radio-Canada.ca, une intervention cherbrookoise pour partager le plaisir de courir. Marc Thérien a choisi de partager sa passion pour la course d'une façon originale. Le médecin originaire de Sherbrooke pousse une personne à mobilité réduite installée dans un fauteuil spécialement conçu pour courir, le Cartus. Depuis sa création, son idée a fait du chemin car de plus en plus de coureurs participent aux événements courses partagées qu'il organise depuis l'an dernier. Toutes les fois que je courais ou que je m'entraînais, je me disais « je cours pour qui, je cours pourquoi », raconte le coureur. C'est une réflexion qui l'a amené à imaginer un fauteuil adapté pour le jogging qui lui permettrait de pousser aisément des personnes qui n'ont pas la capacité de courir. Depuis le mois de mai, les coureurs et co-coureurs sont attendus tous les mercredis de 9h30 à 11h30 au parc Jacques-Cartier de Sherbrooke. Parmi eux, Lise Desnoyers, qui court pour le plaisir depuis 7 ans. Elle souhaitait pousser plus loin l'expérience de la course pour le défi physique, mais aussi pour donner à cette activité un côté plus social. C'est une expérience très intéressante, surtout de pouvoir partager notre passion. Depuis le mois de mai, elle a couru 3 fois avec Claudia, atteinte d'une maladie dégénérative. Mon premier objectif, c'était d'être à l'extérieur de mon fauteuil roulant. J'ai déjà été capable de courir, de faire du vélo, souligne Claudia. Maintenant, je ne peux plus en raison de cette maladie. Là, j'en profite et je peux profiter du paysage. Les courses partagées sont offertes gratuitement jusqu'au 15 octobre. Et puis, les policiers du SPVM qui ont participé au tour cycliste et qui ont fait 1110 km à vélo pour les athlètes handicapés, eh bien, ça s'est bien terminé, ils sont bien revenus. Il faut se souvenir que ces fonds serviront au transport des enfants vers le défi sportif Altergo, une compétition sportive internationale de 7 jours, rappelons-le, qui rassemble plus de 7000 athlètes de la relève et de niveau élite ayant une limitation fonctionnelle. Les jeunes athlètes sont originaires de plus de 20 pays et de 125 établissements scolaires du Québec. Cet événement permet à certains jeunes d'évoluer vers des tournois d'envergure, voire mondiaux. Alors, un organisme qui s'implique aide à une saine collaboration et à une continuité de notre association. On sent que la cause est aussi importante pour eux que pour nous, a souligné le policier Andy Fréchette, qui en est à son 12e tour. Voir le sourire des jeunes et leur ténacité lorsqu'ils participent aux compétitions sportives, c'est quelque chose de très fort pour nous. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous souhaitons nous impliquer auprès du défi sportif Altergo. Une 5e collaboration entre Altergo et le SPVM a d'ailleurs été déjà annoncée pour l'an prochain. Oui, ça nous plaisait d'éventuellement tomber dans les pommes ce matin. On s'est dit, tiens, pourquoi pas le faire au potager Montrouge, à cette halte gourmande, fière, et de dire qu'elle est accessible. Marjolaine Beauregard, vous en êtes la copropriétaire, bonjour.
Oui, allô, ça va bien.
Oui, ça va bien, merci. Alors là, c'est le gros boom de l'année qui se prépare chez vous, là.
Effectivement, le lancement se fait en fin de semaine pour le départ de la cueillette de pommes.
Bon, ça y est, donc c'est le temps des pommes. Et qui dit le temps des pommes dit aussi belle saison d'automne, belle couleur, mais dit aussi la fin de l'été. Mais pour vous, c'est plutôt une partie de plaisir, je pense. Enfin, partie de plaisir, ça reste du boulot, on s'entend. Hein?
Ah oui, mais quand on en fait son métier, ça doit être une passion parce que nous, notre patron, on peut dire, là, c'est la météo. Cette année, il y a eu beaucoup de pluie, fait que mais c'est pas grave, chez nous, il fait toujours soleil.
Bon, tant mieux, Marjolaine, c'est agréable d'entendre quelqu'un comme vous, comme ça, et avec un beau rire en ce mardi matin, c'est très plaisant. Alors, ce verger se dit accessible.
Oui, effectivement, c'est une des nouveautés cette année. L'année passée aussi, c'est notre. En fait, il faut dire que c'est notre première année d'opération là à la ferme, à moi et mon frère. Là, on vient tout simplement d'acquérir le verger. Puis
D'accord.
ici, les installations étaient déjà prêtes là avec des balades pour les tracteurs, adaptées pour les fauteuils roulants.
C'est vrai.
Oui, les salles de bain sont accessibles, puis nous, on arrive avec un plus-value là, qui est notre connaissance dans la culture de fruits et légumes. Fait que quand que les gens arrivent au verger, ils n'ont pas juste les pommes, là, ils ont les tomates, les poivrons, les oignons, les carottes, tout pour faire les marinades. Mais le kiosque aussi est tout accessible là, aux gens à mobilité réduite. Là.
Oui. Alors ça, c'est ce que vous appelez, vous, votre projet de site agrotouristique, mais qui n'est plus d'ailleurs un projet qui est une réalité maintenant, hein, Marjolaine.
Oui,
c'est bien
fait.
Ça. Hein? Bon, alors vous offrez là toute une panoplie de gourmandises. Hein. Vous en parliez. On parle de tout ce qui est marinade, hein, tout ça, ketchup aussi, j'imagine, confiture.
Marinade, confiture aux fraises, parce que tu sais, nous on commence la saison avec le tourillette de fraises.
Ah, ok.
Mais puis ensuite on. Un jour, va venir bientôt la framboise, le bleuet. Puis ensuite, là, on vient de commencer aussi la tomate, le poivron, comme je le disais tantôt. Mais oui, on fait toutes nos conserves maison pour les gens qui, justement, peuvent pas aller au champ. On peut soit les acheter au kiosque à la ferme. Puis sinon, ben on fait la reliche, les cornichons maison. On a toute une gamme aussi de produits congelés, là, les boulettes au porc avec on a une tourtière.
Vous faites pousser des porcs aussi.
Oui, c'est ça, non? Non, mais tu sais, on s'amuse avec la pomme aussi, là, tu sais, avec les tourtières, pommes et porcs.
Oui, bien sûr. Oui.
Oui, exactement. Puis bon. Nouveau bébé, là, c'est les pâtes fraîches, là, au basilic et tomates. Oui, exactement.
Fantastique, hein, parce que vous avez une voix toute jeune, Marjolaine. Est-ce que je me trompe?
Je viens de tourner 30 ans, moi, cette année.
Eh bien, c'est tout jeune, ça. Alors, bravo pour ces belles ambitions et pour ce beau projet. Alors donc, les personnes en ce moment qui nous écoutent et qui sont à mobilité réduite, vous les exhortez à venir vous voir parce que vous dites qu'ils peuvent vraiment aller se promener dans les champs, ils peuvent même prendre un tracteur. Mais ça se fait comment, ça, Marjolaine?
En fait, c'est une balade qui D'accord. est adaptée, donc avec une montée là, où on peut rouler les chaises roulantes, là, les monter sur la voiture.
D'accord.
Et puis ensuite, il y a comme des breaks là, pour pas que les roues bougent.
Bien sûr, oui.
Les tracteurs, ça va pas à une très grande vitesse non plus, pour te le dire. Fait que rendu au milieu du champ, là, les gens peuvent aussi débarquer là, lorsqu'ils sont accompagnés. Puis ils font la balade. Là. Dans le fond, c'est comme dans un parc.
Bien sûr.
L'activité, on a les pommes, les pommiers qui sont à la hauteur d'une personne assise. Donc, il n'y a pas de problème pour faire la cueillette pour ces gens-là.
Génial.
Puis ensuite, ils peuvent reprendre la balade pour repartir ou rouler là, jusqu'en bas, là, bien sûr, là, s'ils sont accompagnés. On accepte aussi les groupes. Ce que j'aimerais préciser, là, c'est vraiment de soit téléphoner avant la venue pour être sûr qu'ils soient bien encadrés puis que nous, on soit prêts à les recevoir parce qu'on est équipés. Mais si on n'en a pas durant la journée, on ne fait pas rouler nécessairement cette balade-là toute la journée.
Exactement.
On aime avoir être avisé à l'avance de la venue, soit d'un groupe même aussi, là, ou d'une personne seule. Là.
D'accord. Et là, je les entends trépigner, mais c'est où? C'est où?
On est à Rougemont, tout près de Montréal, en Montérégie, au cœur de la Montérégie. C'est le 154 rang de la montagne.
OK, d'accord. À Rougemont.
À Rougemont.
Bon, avec une très jolie pomme sur le bord de la route, non? C'est pas là?
C'est pas très loin de la grande pomme, là, justement.
Zut alors! Je pensais que c'était la vôtre, excusez-moi.
Non, mais celle-là est connue depuis plusieurs années, par exemple.
Oui, ben
mais
non.
On a une affiche, le potager Montrouge, halte gourmande, là, sur le bord du
D'accord.
chemin. On a même des pancartes bleues, là, fait que les gens qui viennent de Montréal sur la 20, sur la 10, on a les écriteaux bleus qui sont indiqués verger de Rougemont.
Parfait.
Du près du verger ici, on a vraiment potager Montrouge. Là, fait qu'on
bon,
suit les indications de chacune des routes. Là, c'est très facile.
Parfait. Alors, juste pour finir rapidement, le site, on fait quoi? On fait haltegourmande.ca?
Oui, exactement. Potager Montrouge, Alta Gourmande.
D'accord, .ca. Donc
exactement.
là, on vous trouve très facilement. Et pour vous téléphoner, pour vous dire oui, je veux venir en fin de semaine, on vous appelle à quel numéro, Marjolaine?
C'est le 450-947-6663, le poste 302.
Alors, 1-40-947-6663 pour tomber dans les pommes au Potager Montrouge avec Marjolaine
Oui.
Beauregard.
Puis surtout la page Facebook. On est
Oui.
très rapide pour répondre par la page Facebook.
D'accord.
Venez liker la page. C'est le meilleur moyen, je vous dirais.
Parfait. Bien, je vous remercie beaucoup, Marjolaine Beauregard. Bonne saison d'automne.
Merci beaucoup à vous.
Allez, au
Bienvenue
revoir.
Bienvenue chez nous. Au revoir.
D'accord, au revoir. Désolée auprès de la charmante personne qui fait partie de ce groupe Call Me Wayne, mais je suis obligée de l'interrompre parce que vous savez que cette émission quand même accueille des invités. J'en ai deux ici en studio avec moi et qui dit deux personnes dit un petit peu plus de temps, alors forcément, donc tant pis pour la musique. Bonjour à vous deux, je vais commencer par vous, Martine Riopel. Vous êtes directrice générale de la fondation L'Intermède qui fête aujourd'hui ses 30 ans. Bonjour Martine.
Bonjour.
Et puis vous êtes accompagnée de Stéphane Euroy. Est-ce qu'on le prononce ou
oui,
non?
Oui, c'est au choix, mais c'est plus clair quand on dit Stéphane Euroy.
Oui, parce que c'est ça, vous n'êtes pas le seul, mais par contre, vous êtes le seul comédien à vous appeler Stéphane Euroy. Ah,
c'est ça, exactement. C'était pour me différencier de tous les Stéphane Roy qui existent sur la Terre. Il y en a beaucoup.
Mais voyez-vous, à chacun son problème, parce que moi, je m'appelle Clotilde Say et je rêve de m'appeler Marie Dubé parce que personne ne retient jamais ni mon nom ni mon prénom, voyez-vous, alors qu'il y a des Stéphane Roy ou des Marie Dubé qui sont obligés de mettre un petit... Stéphane, bien sûr, c'est le comédien, mais c'est surtout aussi le porte-parole que nous accueillons aujourd'hui. Je voudrais d'abord me tourner vers Martine, si vous me le permettez, directrice générale. Donc, vous êtes évidemment très, très à même de pouvoir nous parler de ce 30e anniversaire de la maison de répit L'Intermède, parce qu'il s'agit bien d'une maison de répit. Ça va avoir lieu le 24 septembre prochain, c'est
oui,
bien ça?
Oui, c'est ça. L'année 2017 est une année charnière pour la Maison de répit. Mm-hmm. On fête les 30 ans et on voulait faire ça de façon très unique et très originale, fêter les 30 ans.
Alors, qu'est-ce que vous avez... Oui, ça, non. Ça, on va en parler un petit peu plus tard. Je voudrais d'abord que vous rappeliez, parce que peut-être que les gens qui nous écoutent ne connaissent pas bien l'intermède. Alors, je voudrais que vous nous en parliez. La vocation, les objectifs.
Oui, tout à fait. Bien, l'intermède existe depuis 30 ans et sa mission est d'offrir du temps de répit aux familles naturelles qui vivent avec une personne, soit ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. À l'EC locaux à Belle-Oeil, on dessert 12 villes aux alentours de Belle-Oeil qui correspond au territoire couvert par le CLSC des Patriotes.
D'accord.
Et notre clientèle est âgée entre 5 et 60 ans, parce qu'on demeure un enfant toute sa vie.
Oui.
Alors, ça résume bien notre
Et mission. J'avais sur la recherche que la particularité de la maison de répit, c'est qu'elle est ouverte quand les autres sont fermés.
Tout à fait, oui, vous avez bien compris. C'est ça, c'est une ressource qui est ouverte quand l'école est fermée, quand les ateliers de travail sont fermés. Mm-hmm. Donc, durant l'année scolaire, on est ouvert du jeudi soir au dimanche soir. Lors des journées pédagogiques, hier, c'était la fête du travail, on était ouverts. Et durant l'été, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ainsi que pendant le temps des fêtes.
Sans compter les fins de semaine, comment vous les appelez ça? Thématiques, c'est ça? Ça veut dire qu'on n'arrive pas là comme ça et puis on vous garde là, on vous propose des choses.
Oui, c'est ça. Hein? Ben, écoutez, comment ça fonctionne, c'est que nos fins de semaine sont divisées selon des groupes d'âge et selon l'autonomie de nos participants. Donc, on a une fin de semaine enfant, pré-ado, ados et adultes. Il va y avoir des enfants qui vont avoir 6-7 ans qui vont se retrouver dans la fin de semaine pré-ado parce qu'ils sont plus autonomes que d'autres personnes un petit peu plus âgées. Donc, ça permet aux intervenants de monter des activités et des interventions qui sont adaptées à eux et ça permet aux usagers de créer des liens puis de se faire des amis aussi. Là.
Pour se faire une idée, vous pouvez accueillir combien de personnes, adultes ou enfants, par journée ou par fin de semaine?
Bien, écoutez, les fins de semaine, il y a des familles qui utilisent nos services pour le coucher. Donc, on a des usagers qui arrivent le jeudi soir puis qui vont repartir le dimanche, qui vont dormir là tout le week-end. Et il y en a d'autres qui vont venir seulement quelques heures, une des deux journées, le samedi ou le dimanche. Pour dormir, on peut accueillir 8 personnes. Et pour faire des activités, écoutez, cet été, là, il y a des périodes là, qu'on avait là, 15, 16 usagers. Et souvent, il y a un ratio de un intervenant pour un ou deux usagers quand les gens ont besoin de,
bien sûr.
D'encadrement.
Non, c'est ça, spécifique. Je me tourne vers vous, Stéphane Euroy.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a amené, vous, évidemment, la question?
Je suis résident de Belle-Oeil et papa de deux enfants en parfaite santé et intellectuelle et physique. Et je cours tout le temps après ma queue pour essayer de trouver du temps pour les activités, pour l'école, tout ça. Et j'ai imaginé dans ma tête ce que c'était pour des parents qui avaient des enfants handicapés. Et je me suis dit, c'est vraiment une belle cause, la maison, le répit et l'intermède, la fondation. Et quand on m'a approché pour ça, j'ai tout de suite embarqué à cause de ça, sachant comment c'est dur dans nos vies, d'élever des enfants à travers nos horaires un peu chargés. Souvent, les deux parents travaillent, tout ça. Je me suis dit, ces parents-là ont vraiment besoin de répit. Et ça m'a touché. Et j'habite à même pas deux rues de la maison de répit.
Ah oui, en effet. Ben oui, ben
j'habite
oui.
vraiment Belle-Oeil à deux rues. Quand on fait des réunions à la maison de répit, je vais partir 3 minutes avant, j'arrive à temps. Ça, c'est bien pratique. Et tout ça m'a vraiment... J'ai visité la maison. Et moi, j'aime ça quand c'est concret. Hein? J'aime bien... quand je sens que les dons sont appliqués concrètement sur quelque chose. Et bon, la maison répit, c'est physique, c'est un lieu. Je vois les intervenantes, je vois les activités, je vois les gens qui en profitent. Alors, tous les dons qui sont remis à l'intermède, ben, ils fonctionnent pour la maison répit, mais aussi pour, on n'en a pas parlé, mais je me permets d'en glisser quelques mots, pour des répits aussi... à la maison, c'est-à-dire on peut aller visiter les gens aussi. Chez eux et aussi leur donner le répit dans le confort de leur foyer. C'est possible de faire ça aussi. Alors pour toutes ces raisons-là, moi je suis embarqué et j'ai bien hâte à l'événement du 24 septembre qui est l'envolée de cerf-volant.
Voilà, alors qui nous en parle de cette envolée? Vous nous en touchez un petit mot?
Oui, on peut le faire ensemble. Écoutez, on cherchait une façon de créer une activité qui est en lien avec la maison, c'est-à-dire on dessert des familles, fait qu'on voulait faire quelque chose de familial et il y a une bénévole dans une réunion qui a dit « Bien, pourquoi qu'on ne fait pas quelque chose avec le cerf-volant, qui est notre emblème, qui correspond bien à l'esprit dans lequel s'ancrent les services, hein, offrir du répit, la liberté et le cerf-volant.
Oui, oui,
donc, oui. On a parti la machine. Ça va se faire au parc du Petit Rapide à Belle-Oeil. Et c'est vraiment une journée familiale. Jeux gonflables, animation musicale, maquilleur, atelier de fabrication de cerf-volant. Puis on va avoir un moment où est-ce qu'on va faire une... Au lieu de couper un ruban quand on construit quelque chose, nous, on va faire une petite envolée de cerf-volant. On a même loué des ventilateurs au cas où que Dame Nature soit pas avec nous.
Parce que Dame Nature, cette année, n'est pas avec nous de toute façon, jamais. Donc, on s'est dit, on y fera pas confiance, hein, à la Dame Nature.
Alors, on peut imaginer que ça va être une envolée de combien de cerfs-volants? Ça, on ne peut pas encore le savoir parce que ça va dépendre combien vont être construits, c'est ça?
Bien, puis on a fait faire des cerfs-volants aussi à l'effigie de la Fondation. Il y en a 300 de disponibles. Il y en a déjà une centaine de distribués. Donc, on invite les gens à venir se procurer leur cerf-volant la journée même.
Derrière le maxi, avec l'œil, la butte-choquette. On appelle ça la butte-choquette.
D'accord. Oui, tu as fait raison.
Et c'est à 11h. Oui. Rendez-vous.
Et c'est accompagné. Les activités, l'admission, c'est gratuit. Les jeux gonflables, tout ça va être gratuit, mais c'est en compagnie, on est en pleine campagne de dons volontaires, c'est-à-dire qu'on appelle aux dons avec un don symbolique de 30$ qui débute à 30$, et on a des partenaires, évidemment, des commanditaires qui nous appuient.
On fait comment?
Écoutez, don en ligne, le plus facile possible, c'est le don en ligne, c'est www.fondation-intermed.com.
Et si vous êtes sur Facebook en ce moment, parce qu'on est souvent sur Facebook, tout le monde, et vous allez vous inscrivez Intermed, vous allez trouver la Fondation. Et même sur ma page Facebook, moi, personnelle, il y a des liens pour la Fondation. Donc, c'est assez facile à trouver, Intermed.
D'accord. Alors, donc, si les gens veulent... Si on a des beaux cerfs-volants à vous donner, pourquoi pas?
Ah, tout à fait, à fait. Et oui, et si vous avez un food truck et que vous voulez venir faire un tour aussi, vous pouvez nous appeler et nous écrire.
Vous avez juste à donner un montant des recettes à l'organisme.
Exactement.
Tu sais, j'ai improvisé ça. Et ça serait super. Alors, on vous invite, quelqu'un qui écoute en ce moment qui a un food truck, un camion donc de nourriture, vous déplacez avec nous. Puis ça va nous faire plaisir de recueillir avec vous les sommes amassées.
Oui, tout à fait.
Alors, nous parlons là des 30 ans de la Fondation L'Intermède. Je reçois Martine Riopel qui en est la directrice générale et Stéphane Heuroy, comédien, qui en est le porte-parole. Je le précise pour les gens qui viendraient juste de se joindre à nous. Cette journée avec cette envolée aura lieu le 24 septembre prochain.
À 11h, donc c'est un dimanche.
Un dimanche.
Et il va faire beau. Et comme on a dit précédemment, on a commandé le vent.
Oui, le vent.
Oh, le vent, il est déjà commandé. On a des ventilateurs pour les cerfs-volants.
D'accord. Et le vin aussi, peut-être, mais...
Le vin, ça sera à la fin. Après la journée pour les intervenants qui seront
fatigués. Nos bénévoles,
Très vite, Stéphane, on peut vous voir, vous entendre où en ce moment?
Donc, en ce moment, le film est toujours disponible. Le film que j'ai lancé le 9 septembre dernier est disponible partout, un peu sur super écran. Oui, vous pouvez le commander, DVD. Et je m'apprête à en tourner un nouveau dans quelques temps, peut-être au printemps prochain. On est en train de financer le projet.
Eh bien, bravo à vous.
Merci
d'avoir accepté cette invitation de la Fondation L'Intermède et d'en être le porte-parole. Merci à vous, Martine Riopel, vous être déplacés tous les deux. Bon vent, c'est le cas de le dire, à cette journée du 24 septembre prochain et à cette envolée de cerfs-volants pour marquer le 30e de la Maison de répit L'Intermède. Aime l'été, la suite. Je suis très heureuse maintenant de pouvoir parler avec Bruno Collard. Qui est Bruno Collard? Il est le directeur clinique de l'organisme qui s'appelle Revivre. Et j'avais vraiment très, très envie de pouvoir parler avec vous ce midi. Monsieur Collard, bonjour.
Bonjour, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
C'est très, très aimable à vous. Monsieur Collard, Bruno, qu'est-ce que Revivre? Pourquoi Revivre est-il né? Comment c'est né?
D'accord. Alors, Revive, c'est l'association québécoise de soutien aux personnes souffrant de troubles anxieux, dépressifs ou bipolaires. C'est un organisme communautaire. On est basé à Montréal, mais notre mission couvre l'ensemble de la province. Et notre objectif, en fait, c'est vraiment d'offrir du soutien, un accueil à toute personne qui est touchée de près ou de loin par ces troubles-là, incluant les familles, l'entourage.
Excusez-moi, mais quand vous dites de près ou de loin, parce qu'il y a parfois des gens qui peuvent se sentir un peu anxieux, je veux dire, quelle est la limite, vous savez, est-ce qu'ils doivent être diagnostiqués pour venir vers vous ou pas?
Non, bien sûr que non. Non. Par contre, on accueille des gens à n'importe quelle étape possible. Il y a des gens qui se posent des questions, qui veulent savoir un petit peu en quoi ça consiste, qui s'inquiètent un petit peu de la détérioration de leur état. Il y a des gens qui appellent pour leur entourage. Et il y a des gens qui vivent au quotidien avec la dépression, un trouble anxieux, ou en tout cas depuis un certain nombre d'années, puis qui vont avoir besoin d'aide de temps en temps, ou bien qui veulent simplement briser l'isolement ou... être en contact avec des gens qui savent ce que c'est et qui vont offrir un accueil.
Wow! Alors, quel type, à ce moment-là, de support pouvez-vous leur offrir?
On vient en aide par différents moyens. Mm-hmm. Ça peut être par le biais de notre ligne de soutien téléphonique qui est offerte du lundi au vendredi de 9h à 5h. C'est sûr qu'on n'a pas un mandat de crise, par exemple, qui ferait en sorte qu'on serait obligé d'être disponible 24h sur 24.
Non, je comprends, oui.
Sauf que de par la nature des problèmes dont il est question, notre équipe est tout à fait habilitée à gérer ça là, lorsque ça arrive, si jamais ça arrive. Donc, il y a le téléphone qui est une ligne provinciale, donc le 1-866 Revive, qui est joignable en fait même de partout au Canada. Mm-hmm. Sinon, c'est possible aussi pour les gens de nous rejoindre par courriel. On fait de plus en plus d'interventions par courriel. On répond habituellement assez rapidement.
Ah oui.
Et là, il y a des gens de toute la francophonie qui nous rejoignent parce qu'on a quand même une certaine visibilité là, sur Internet. Et c'est possible aussi d'avoir des rencontres en personne avec ou sans rendez-vous.
Avec ou sans rendez-vous, carrément, donc avec des spécialistes à ce moment-là?
Avec une équipe d'intervention, ce sont des gens qui ont étudié en travail social, en psycho, en psychoéducation, donc principalement une équipe que moi je coordonne et puis qui cherche en fait à soutenir les personnes qui entrent en contact avec nous.
D'accord.
Et notre créneau, c'est vraiment, je tiens à le dire parce que c'est un message qui est important, c'est pas de la psychothérapie, c'est pas de la pharmacothérapie non plus, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va aller chercher du côté des professionnels de la santé. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va soutenir la personne dans son autogestion, c'est-à-dire que on va l'aider à trouver toutes sortes de moyens par lesquels elle va pouvoir jouer un rôle proactif pour prendre soin d'elle et prendre soin de sa santé, peu importe ce qu'elle traverse présentement.
Mais est-ce
c'est pas une approche qui va remplacer les traitements existants.
Non, bien sûr.
Mais c'est quelque chose qui complète vraiment bien et puis qui fait en sorte que la personne sait beaucoup plus à quoi elle peut s'attaquer et puis dans le respect de son rythme.
Oui, je pense que c'est très, très clair hein, dans ce que vous nous dites. Vous n'êtes pas des psychothérapeutes, vous n'êtes pas... ce n'est pas ce genre de choses-là que vous offrez, mais vraiment un soutien. Et on parle aussi d'autogestion. La grande question, c'est est-ce que des gens qui souffrent de dépression sévère, par exemple, peuvent réellement s'autogérer?
Bien sûr que oui. Oui, oui. On va voir ça beaucoup dans les maladies chroniques physiques. L'autogestion provient de ça. Si on pense à des problématiques comme l'asthme, le diabète, des maladies coronariennes, des douleurs chroniques, etc., dans les hôpitaux, ils se sont vite aperçus que, parallèlement au traitement conventionnel que les gens reçoivent, il y a quand même une multitude de choses que les gens peuvent mettre en place au quotidien.
Oui, bien sûr.
Ça va améliorer beaucoup leur qualité de vie, leur pronostic également. La même chose peut être dite à propos de la dépression. On passera pas toute sa vie en dépression. C'est pas ça l'idée d'aborder ça comme une maladie chronique. Mais pendant que c'est là, et même en l'absence de symptômes aussi, oui, il y a la thérapie, oui, il y a la médication, mais par exemple, si on pense aux habitudes de vie, l'alimentation, le sommeil, l'exercice physique, la consommation d'alcool, de drogue, la gestion du stress, le rapport avec l'entourage, puis même tout aussi la question d'apprendre à connaître la façon dont la maladie va se manifester spécifiquement pour soi, puis être un acteur beaucoup plus proactif et choisir les stratégies qui vont être les plus pertinentes pour nous, selon ce qu'on a envie de faire ou non.
Et prévenir plutôt que guérir dans beaucoup de cas, quoi.
Oui.
Hein? Et je tiens à préciser tout de suite, vous n'êtes pas juste à Montréal, hein? Vous êtes partout vraiment au Québec. Hein? Vous avez même un réseau de collaborateurs,
oui, hein?
C'est bien ça?
Oui, c'est qu'on a développé des ateliers de psychoéducation basés sur cette approche-là d'autogestion.
D'accord.
Ce sont des rencontres qui ont lieu, par exemple, à une rencontre de 2 heures et demie par semaine pendant 10 semaines. Et là, c'est une même cohorte qui se suit, là, qui vient toujours aux rencontres. Et il y a un programme prédéterminé avec du contenu, des objectifs plus spécifiques. Et ce programme-là, qu'on a conçu, qui s'appelle les ateliers d'autogestion, il y a de plus en plus d'organisations, des organismes communautaires, des équipes de santé mentale dans le réseau aussi, qui se procurent le matériel, qui se procurent le programme et qui le dispensent à leur propre clientèle.
Mm-hmm.
Donc, on a un réseau de collaborateurs partout à travers le Québec. Les ateliers d'autogestion sont donnés, par exemple, partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, partout dans le bas du fleuve aussi, de plus en plus à Montréal. Donc, ça fait le tour et les ateliers ont même été vendus en Suisse.
Ah oui, en effet. Oui. En effet. Alors, si, par exemple, là, vous parlez du Lac-Saint-Jean, mais peu importe la région, les gens en ce moment qui nous écouteraient, qui seraient intéressés pour vous joindre, ils font simplement revivre.org et ils vont trouver dans leur région où aller chercher de l'aide?
Oui, ben en fait, pour nous rejoindre, c'est possible de le faire partout au Québec, là, soit par Internet ou soit au 1-866-REVIVRE. Mais si les gens sont spécifiquement intéressés par les ateliers d'autogestion, le bon site, c'est j'avance.revivre.org. C'est le programme J'avance, donc c'est un site qui est dédié aux ateliers. Et là, en naviguant un peu à travers le site, ça va être possible de voir si les ateliers sont disponibles dans la région et si c'est le cas, par quelle organisation et comment entrer
D'accord.
en contact avec eux.
D'accord. Évidemment, ce sont des ateliers qui viennent avec un coût, j'imagine.
En ce qui nous concerne, oui, étant donné que le financement qu'on reçoit est vraiment...
minimal, j'imagine.
Oui, c'est
infime.
Ça. Donc, simplement pour couvrir nos frais, il y a des tarifs pour nos ateliers à nous qui sont de l'ordre de 400 $, ce qui revient à peu près à une quarantaine de dollars par semaine, mais ça inclut la rencontre de 2 heures et demie, plus le matériel et tout. Et si jamais les gens sont sous un certain seuil de revenus, il y a aussi un programme de place subventionnée pour lequel c'est possible que les gens demandent de l'information.
OK, d'accord. Alors, d'accord.
En ce qui concerne l'ensemble de nos collaborateurs, quand, par exemple, les ateliers sont donnés à l'extérieur, c'est le cas dans... plusieurs sites là, dans l'est de l'île de Montréal et dans l'ouest de l'île aussi, si possible, là, si les gens nous appellent de prendre l'information. Lorsque les ateliers sont donnés par d'autres organisations, les coûts sont beaucoup moindres.
Ah oui, aussi, d'accord. Et quand vous parlez de 5 ateliers, parce que j'imagine que est-ce qu'on va mélanger des personnes simplement anxieuses avec des personnes dépressives ou comment ça se passe? Comment vous les répartissez?
À partir du moment où quelqu'un s'intéresse à un atelier, c'est sûr qu'il va y avoir un entretien avec quelqu'un de notre équipe pour vérifier où est-ce que la personne en est, qu'est-ce qu'elle a fait jusqu'à présent, et à quel point la démarche pour laquelle elle souhaite s'inscrire a du sens pour elle.
Oui.
Il va répondre aux objectifs qu'elle se fixe puis aux besoins qu'elle a identifiés. Donc ça, c'est super important. Ce qu'on va aller vérifier surtout avec la personne, c'est si elle risque de se reconnaître à travers les autres personnes qui vont faire partie du groupe aussi. Ça, c'est
essentiel, pour qu'on parle le même langage, effectivement.
C'est ça. Ceci étant dit, c'est extrêmement fréquent qu'une personne va vivre un problème d'anxiété et va aussi avoir de la difficulté du côté de son humeur, là, qui va traverser un épisode de dépression, soit de façon consécutive ou en parallèle en même temps. Et la même chose est vraie aussi pour les gens qui souffrent de dépression, mais c'est pas rare qu'on va trouver un trouble anxieux aussi.
Donc, oui, bien sûr.
La question à poser là, à la personne, c'est qu'est-ce qu'elle a le plus envie de faire pour les 10 prochaines semaines?
Oui, c'est ça, exactement.
Et puis, il n'y a rien qui l'empêchera de faire le prochain atelier là, à la session suivante.
Eh bien, écoutez, c'est vraiment passionnant et je pense qu'il était important hein, que nos auditeurs sachent que vous existez, Bruno Collard.
On se fait vraiment une fierté de pouvoir dire aux gens qu'il existe des ressources et on souhaite vraiment qu'en ce qui nous concerne, on soit les plus accessibles possible. C'est vraiment important que les gens ne restent pas seuls avec ça et qu'ils sachent que, peu importe à quel point c'est prenant ce qu'ils traversent, c'est possible d'en revenir, c'est possible de s'attaquer à ça et c'est possible d'être soutenu pour le faire.
Oui, c'est ça, exactement. Et puis, vraiment briser l'isolement et aller chercher de l'aide. Merci, merci beaucoup, M. Collard, Bruno Collard. Je rappelle que vous êtes le directeur clinique de Revivre et j'ai été ravie d'avoir cette discussion-là et les auditeurs aussi. J'en suis convaincue avec vous et n'oubliez pas que Revivre, ce n'est pas juste à Montréal, hein, c'est vraiment partout en province. Vous pouvez pouvez avoir droit à ces ateliers-là et avoir une équipe autour de vous pour vous aider à vous en sortir et à en revenir, justement. Voilà. Alors, merci beaucoup, Bruno, et au plaisir. Merci.
Ça m'a fait plaisir. Portez-vous bien.
Au revoir, vous aussi.
Au revoir.
Não chore, não se apavore. Agora seu par dos meus laços. Me resta essa dor. Não olhe tão longe. Se perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. Gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça hoje. Oi, quem me abraça? Não chore, não se apavore. Agora seu par dos meus laços. Me resta essa dor. Não olhe tão longe. Se o perto é certo, não me quer, não mais. Tua música jaz um gesto injusto. O gelo das mãos, gelo das mãos de quem me abraça hoje. Oi, quem me abraça? Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer, não mais. Mais lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer mais. Lilás, cores, flores, tudo em nome do amor, mas não me quer, não mais.
Voilà, et en studio encore avec cette fois-ci Madeleine Fauteux. Madeleine Fauteux est orthopédagogue, elle est conseillère pédagogique ou du moins personne ressource dans le domaine à l'Institut des troubles d'apprentissage. Bonjour Madame Fauteux.
Bonjour.
Alors écoutez, je suis ravie de vous avoir aujourd'hui en studio. On sait que c'est septembre, c'est la rentrée, et qui dit rentrée, ben dit la rentrée de son lot de problèmes aussi, éventuellement de solutions. Nous, on va s'intéresser à un problème, peut-être, et je suis convaincue qu'il y a des parents qui vont dresser l'oreille en ce moment. Si on a un enfant, hein, alors que la rentrée sonne, là, si on a un enfant dont on soupçonne qu'il a des troubles d'apprentissage ou s'ils sont confirmés, que doit-on faire en premier, Madame Fauteux?
Évidemment, on va partir, on dit qu'on est une nouvelle année, un nouvel enseignant, peut-être un nouveau directeur et peut-être aussi une nouvelle école. Alors, on va partir sur une note, disons, positive. On va demander, en tant que parent, qu'il y ait un plan d'intervention, donc d'établir un plan d'intervention.
D'accord.
Il se peut qu'il y ait eu un plan d'intervention l'année précédente, mais c'est nécessaire de demander une rencontre parce que le plan d'intervention, c'est évolutif, évidemment, puisque l'enfant évolue, son apprentissage évolue, les gens autour de lui, ce ne sont plus les mêmes personnes. Souvent, en tant que parent, on attend d'être convoqué, on attend d'être invité. Mais moi, je dirais qu'on peut être aussi proactif et demander à la direction d'école, bien évidemment, parce que c'est la direction d'école qui est responsable.
Bien sûr.
Une date précise.
Une date, simplement, d'accord.
Tout simplement.
Pour une rencontre. Hein,
pour
donc,
une rencontre.
Voilà, pour penser à un plan d'intervention qui sera toujours personnalisé. Donc, chaque enfant avec un trouble d'apprentissage va avoir un plan d'intervention évidemment différent de son petit voisin de classe. Là.
Évidemment. Alors, dans le plan d'intervention, c'est plus qu'un document légal.
Oui.
C'est quand même un document, c'est quand même, le plan d'intervention est prescrit par la loi de l'instruction publique quand même, l'article 96-14, je crois. Alors, peu importe, mais c'est plus qu'un document légal. C'est une démarche auquel on s'assoit tous autour de la table. Le parent est invité, si c'est possible, l'enfant aussi.
D'accord.
Alors, l'enseignant et les différents intervenants scolaires qui vont travailler avec l'élève.
Oui.
Et on met en commun les moyens.
Oui, oui, oui. Qu'on pourra mettre en œuvre hein, pour aider cet enfant-là, bien sûr. Et ça, c'est avant même que le diagnostic soit posé. Ça veut dire dès que les parents ont déjà un doute. C'est bien ça, Madame Fauteux.
On n'a pas besoin. Présentement, le ministère de l'Éducation est dans une approche non catégorielle. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir une évaluation, un diagnostic pour nécessairement bénéficier d'un plan d'intervention.
D'accord.
Donc, si mon enfant a des difficultés persistantes, il résiste, il n'évolue pas au même rythme que les autres, alors je vais voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place.
D'accord.
À l'école.
Parce que ce qu'il
classe.
Faut, c'est évidemment que ce plan-là existe le plus rapidement possible. S'il arrive tard en saison, j'imagine que ça sert un petit peu à rien, quoi. C'est bien ça, Madame Fauteux?
Évidemment, le plus tôt possible. Mm-hmm. C'est certain que la période de septembre est une période très active à l'école.
Bien sûr.
Mais quand même, il faut, faut y aller avec une façon de procéder pour activer, pour que ça soit fait dans les délais raisonnables.
Mais quand on voit le nombre grandissant d'enfants aux prises avec des troubles d'apprentissage, est-ce que chaque école a les reins assez solides pour mettre en place toutes ces rencontres avec les parents? Parce que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, tout ça, ça prend... On y parvient? Avancez-vous un petit peu, madame, voilà.
D'accord. Évidemment, ça prend une logistique.
Oui, c'est ça qui doit être assez importante.
Hein. Il faut une préparation au plan d'intervention. Le parent peut se préparer au plan d'intervention. Les intervenants peuvent se préparer aussi. Mm-hmm. Alors, dans un délai raisonnable, on doit, autour de la table, c'est sûr qu'il faut avoir une... que le plan d'intervention, que ce soit une rencontre dirigée, mm-hmm. pour ne pas partir sur des angles différents.
Bien
alors,
sûr,
il faut être, pour que ce soit concerté, dirigé, mm-hmm. on va parler des forces d'un élève,
oui.
parce que c'est souvent ces forces-là qui sont des portes d'entrée. On va parler de ses besoins, de ses mm-hmm. défis, mm-hmm. des moyens qu'on va mettre en place. Alors, il y a des moyens qui peuvent être des services, mais il y a des moyens qui peuvent être des moyens qui vont donner, si on peut dire, qui vont aider l'enfant au niveau de son estime, tout en l'aidant au niveau de ses apprentissages.
De ses apprentissages aussi. Comment on peut savoir concrètement si un enfant a des problèmes de troubles d'apprentissage ou pas? Quels sont les signes qui peuvent alerter un petit peu sa famille, ses proches?
Ce sont des enfants qui sont intelligents, et souvent très intelligents, et leur rendement scolaire ne correspond pas à ce qu'on connaît de l'enfant. C'est un enfant qui est débrouillard, qui se débrouille souvent dans la vie et tout mm-hmm. ça, mais lorsqu'il est en face... assis à son pupitre, il n'arrive pas à actualiser son potentiel. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe?
Oui,
pourquoi
oui.
il n'actualise pas? C'est pourtant un enfant qui me semble oui. brillant, intelligent, qui se débrouillard.
Il n'arrive pas à se concentrer?
Ça peut être un problème. Ça peut être un problème qui est dû à son attention. Mm-hmm. Ça peut être un problème qui est dû à un problème d'apprentissage. À l'Institut des troubles d'apprentissage, on soutient ces enfants-là, mm-hmm. ben, les enfants et leurs familles.
Oui, 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 oui.
Alors, ça peut être beaucoup, il peut y avoir beaucoup de variables qui peuvent expliquer ça. Dyslexie, mm-hmm. dysorthographie, troubles de l'attention, bref, et bien d'autres.
Un enfant lunatique aussi.
Troubles associés. Mm-hmm, exactement. Mm-hmm,
mm-hmm. Alors, tous les enfants ont accès à ce que vous appelez quoi? Un PI, un PI, c'est ça? Hein?
Un plan d'intervention.
C'est ça, un plan d'intervention. Tous les enfants ont le droit à ça dès l'instant que les parents le demandent, bien sûr.
En fait, ce sont les enfants qui sont handicapés ou en difficulté.
En difficulté, d'accord. Alors, donc, le processus, on en a parlé. Ce que vous avez finalement à nous dire et ce que nous devons retenir, c'est que si vous avez, parents en ce moment, qui nous écoutez le moindre doute sur une possibilité de difficulté d'apprentissage envahissant pour votre enfant, c'est d'aller tout de suite en aviser peut-être l'école pour pouvoir mettre sur pied ce plan, hein, même si l'enfant n'a pas été diagnostiqué. C'est bien ça, Madame Fauteux.
Effectivement. L'erreur, ce serait d'attendre qu'il y ait un diagnostic et de ne pas mettre en oui. place tout de suite les moyens, les stratégies qui seraient oui. aidantes.
Et il y a sur le site du ministère de l'Éducation, les gens peuvent s'informer, hein, je crois, justement, s'ils ont des doutes ou si...
Il y a plusieurs documents officiels qui parlent du plan d'intervention.
D'accord. Donc, ça, ce sont vraiment des documents aussi concrètement, qui donnent concrètement des indices aux parents par rapport à l'attitude de leur enfant, c'est bien ça?
Oui, si les parents ont des questions directement, ils oui. peuvent toujours téléphoner à l'Institut des troubles d'apprentissage.
D'accord.
C'est au 514-847-1324. Mon poste est le poste 230, ou mm-hmm. parler à une mm-hmm. autre personne ressource aussi.
D'accord.
Alors, on peut, nous, dans notre mandat, c'est souvent de soutenir le parent, mm-hmm. l'aider mm-hmm. à se préparer à la rencontre mm-hmm. du plan d'intervention pour que ça soit une belle rencontre, une rencontre d'équipe, une
oui.
rencontre où chacun met les...
L'épaule à la roue, comme on dit, c'est oui, ça. C'est ça. Le but étant de faire en sorte que ce gamin-là, puisque oui. chaque enfant est personnalisé là, puisse s'en sortir, quoi, malgré ces troubles-là.
D'accord.
Madame Fauteux, bien écoutez, merci infiniment. Je vais redonner le numéro de téléphone que vous avez donné un petit peu plus tôt. C'est celui de l'Institut des troubles d'apprentissage dans le 514, le 847-1324. 847-1324, le poste 230. Sinon, si vous allez sur Internet, si vous faites Institut des troubles d'apprentissage, vous allez avoir aussi beaucoup d'informations. Mais la première information à retenir, c'est si vous avez un doute, N'attendez pas, parlez-en à votre école et au directeur de l'école. Merci beaucoup, Madame Fauteux, d'avoir répondu à nos questions.
Ça m'a fait vraiment plaisir.
Au revoir, madame. Et puis quelques nouvelles en rafale pour terminer ce magazine M l'été du jour. 3000 personnes vont être attendues au premier salon des aînés à Saint-Jérôme. C'est un projet qui a été mis en place pour répondre à un besoin important vu le nombre grandissant de personnes âgées dans la région. Un objectif est de centraliser l'information concernant les services offerts à la population vieillissante dans un même endroit. Il sera bien sûr également proposé des activités. 25% des Jérômiens sont considérés comme des aînés, ce qui veut dire que sur une population de 76 000 personnes, 19 000 ont 65 ans et plus. Cette population, c'est vraiment énorme, a souligné le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher. La ville a d'ailleurs démontré que le nombre important d'aînés vivants à Saint-Jérôme impose la mise en place de programmes, d'activités et d'événements de nature récréative favorisant leur participation. Alors, le Salon des aînés sera placé sous le thème de promouvoir et favoriser le vieillissement actif. Et c'est le quartier 50+, qui l'accueillera, ce Salon des aînés. Il y aura 82 exposants offrant des services utiles aux aînés. L'entrée est gratuite le 28 septembre. Il sera également proposé gratuitement une pièce de théâtre intitulée « Les feux de l'amour » à 10h30. Et sans oublier deux conférences. La première de maître Jean-Pierre Ménard sous le thème « Défendre ses droits et ceux de ses proches » et l'autre de Marcel Leboeuf avec pour titre « Se réinventer tout au long de sa vie ». Ce sera placé le tout au coût de $15. Il faut savoir que les retombées économiques iront à l'organisme Vigile Ange qui a comme mission d'aider et d'améliorer la qualité de vie des aînés et des proches aidants de la MRC de la Rivière du Nord. Et puis, petite information, mais quoi qu'à Saint-Jérôme, vous devez le savoir, le quartier 50+, est situé au 425 boulevard Jean-Baptiste Roland Est. Voilà, ainsi s'achève M l'été en ce 5 septembre 2017. Merci à mon équipe, Sylvie Rivard et Jean-Sébastien Laliberté. Merci aussi à tous mes invités du jour. C'était Clotilde Seil qui vous souhaite une excellente fin de journée et qui vous donne rendez-vous demain dès midi pour un autre M l'été.